pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Dans les années 80, Pablo Escobar, à la tête du plus gros trafic de cocaïne du monde entier, le fameux cartel de Medellín, propose de payer la totalité de la dette externe de la Colombie, qui s'élève à 8,8 milliards de dollars à l'époque. En échange de quoi, une loi le protégerait de l'extradition vers les États-Unis. Il ne veut en effet pas être jugé sur le sol américain, où il risquerait de croupir dans une prison administrée par un personnel incorruptible. Ce chiffre donne une idée de l'échelle du trafic qu'il dirige. Un autre exemple est assez éloquent, puisqu'on dit que dans les mêmes années 80, le cartel de Medellín dépense 2500 dollars par mois en élastique, rien que pour attacher les liasses de billets de banque. La cocaïne représente aujourd'hui en Europe un marché de 5,7 milliards d'euros. 91 tonnes de cocaïne sont consommées chaque année sur le continent. Pour arriver jusqu'ici, le parcours de la substance est vertigineux. Elle pousse dans les zones tropicales d'Amérique du Sud, elle est transformée dans des labos au Brésil, elle voyage en bateau jusqu'en Italie, où elle est chargée sur des camions jusqu'à Paris, pour terminer dans les narines de milieux sociaux de plus en plus diversifiés. En termes de mondialisation, il n'y a pas plus éloquent, mais c'est sans doute le marché le plus meurtrier, écologiquement irresponsable et cynique de la planète. Une odeur de poudre, c'est une série d'Adila Benedjaizou qui raconte comment tout ça est arrivé près de chez nous et près de chez elle en particulier. C'est jusqu'à 14h et c'est le premier épisode sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
On s'en fait trois ?
Bah fais-nous trois traces, mais même à mon avis, trois, ça va être beaucoup. Hein. Wow. Trois, elles vont être vénères.
Toi, t'es un petit joueur, toi. On se fait trois et on les divise en deux ?
Ouais, on peut faire ça. Voilà, ensuite on aligne, on réaligne. Voilà. On est sur du parallélisme. Ça, c'est la panique. Ah bah vas-y, 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 t'attrapes.
Chacun son coup.
Attention.
Ça, quand j'avais 30 ans, c'était le genre de conversation qu'on n'entendait qu'au cinéma. La cocaïne ne faisait pas partie de ma vie de jeune femme de la classe moyenne. Elle était trop chère, trop trash, et un peu trop glamour aussi.
Je sais pas comment aller doser aussi, parce que...
Moi, je faisais des fêtes où on dansait la salsa et on fumait des joints.
Très dosé ou de la...
Et ben, le jour où j'ai fêté mes 40 ans chez moi, on n'écoutait que de la techno et il y avait la queue devant les toilettes. Ouais, tellement il y avait de monde qui voulait se faire un rail de coke.
C'est quoi la coke pure ? Comment tu... Ça existe pas la coke pure ?
Aujourd'hui, sans en avoir jamais consommé, j'ai passé tellement de temps avec des gens qui consomment et vendent cette drogue que j'ai fini par me considérer comme une cocaïnomane passive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'en 10 ans, je suis devenue plus riche, plus trash et plus glamour ?
Ouais, c'est passé.
Malheureusement, la vérité est moins chic. Bien sûr, j'ai changé. Mais c'est surtout le monde autour de moi qui a changé. À la fin des années 90, les barons de la drogue colombiens ont de plus en plus de mal à faire entrer de la cocaïne aux États-Unis et ils décident d'investir en Europe. La stratégie est simple. Vendre moins cher pour vendre plus. Entre 1997 et 2007, le prix du gramme de cocaïne en Europe est passé de 120 à 60 euros. Et cette coke discount a envahi le continent. Elle est sortie des soirées du showbiz pour conquérir les classes moyennes. Quand on sniffe un rail de coke, on est peut-être rock'n'roll, mais on est aussi client d'une stratégie commerciale mise au point par le cartel de Medellín. Bon, vous, je sais pas, mais moi ça m'intéresse de savoir ce genre de choses. Et le problème pour tout ce qui concerne la cocaïne et les autres drogues dures, c'est que comme c'est illégal, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Oui, les drogues dures ont une odeur de poudre. Eh ben, je vous propose de mettre le nez dedans. Parce qu'il faut bien comprendre comment sont fabriqués, transportés et vendus les produits qu'on consomme.
Déjà, à l'œil, vraiment, faut que ce soit des flocons. Faut que ce soit des flocons et que ça brille très légèrement. Faut pas que ça brille trop, parce que si ça brille trop, c'est qu'il y a une connerie dedans. L'odeur, c'est très important aussi. Faut que ça sente le kérosène. Parce que la coke, elle est fabriquée avec du kérosène. Donc faut que ça sente l'essence un peu. Faut que ça... Et voilà.
On pourrait penser que le dealer est la meilleure personne pour parler de drogue, mais c'est pas le cas. D'abord, il risque trop gros, et ensuite, son pouvoir repose précisément sur le fait qu'il détient des informations que les autres n'ont pas. Quand j'ai rencontré Mathis, il sortait de prison. S'il a accepté de me raconter les secrets de son métier, c'est parce qu'aujourd'hui, il est à la retraite, même s'il n'a que 24 ans.
Ma famille, ils ont beaucoup bougé dans les pays de l'Est et ils se sont beaucoup mélangés en fait. En gros, c'est à la fois les gitans, les tziganes. Du coup, c'est un espèce de grand mélange. Donc culturellement, on a grandi là-dedans, on a été bercé là-dedans, mais pas de la manière dont on imaginerait. Par exemple, on n'a pas bougé. Et on n'était pas dans un quartier où il y avait d'autres gitans, on était les seuls. Donc on n'a pas grandi de la manière dont on imagine que des jeunes gitans grandissent.
Mais vous avez grandi où alors ?
À Lyon, dans la banlieue de Lyon. Dans des tours, quartier populaire. Je devais être le mec le plus blanc, je pense, de mon quartier. On vendait du shit d'abord. Un peu tous, pour les grands. Et déjà les trois quarts, ils sont allés en lycée technique. Moi, j'ai fait mon malin, tu vois, j'ai fait option art plastique et tout. Donc je suis allé dans un lycée plus... moins populaire, plus bourgeois. Et du coup, j'ai fréquenté plus de blancs et qui faisaient des soirées. Quand j'ai commencé à aller dans d'autres soirées, j'ai vu que les gens, ils tapaient des traces ensemble, ils rigolaient ensemble, ils dansaient, ils étaient beaux, ils étaient bien habillés. Donc ça m'a fait envie tout de suite, quoi. Et la coke, c'était mon ticket d'entrée. Et du coup, ouais, je crois qu'il y a un grand qui m'a proposé, qui m'a dit, vu que tu vas des soirées là-bas, tu sais que nous, on en vend aussi. Donc, c'est ça qui a fait dès que j'ai commencé à vendre un peu de coke, j'ai tout de suite arrêté de vendre du shit, parce que tu te fais plus d'argent. Et en plus, je me faisais beaucoup plus inviter, du coup.
La cocaïne a son langage. On dit rarement cocaïne, par exemple, mais plutôt la C, ou la coke, ou la poudre. Un pochon, c'est le petit emballage plastique dans lequel on met les grammes de coke. On peut sniffer une ligne de coke, mais aussi un trait de coke, ou une trace, voire une poutrasse quand elle est énorme.
Je sais que dans d'autres quartiers à Lyon, la coke c'est beaucoup plus mal vu déjà, parce que la coke c'est une drogue dure. Et c'est vu plus comme une drogue de blanc aussi. Et c'est une drogue de gens qui font la fête, de gens qui font des trucs sales, qui baisent à droite à gauche. À partir du moment où t'es connu comme vraiment consommateur de coke, déjà t'es mal vu. D'abord j'ai commencé à vendre dans les quelques soirées où j'étais invité. Mais finalement les gens étaient pas, ils m'en achetaient un peu, mais ensuite, petit à petit, j'ai commencé à avoir des clients dans d'autres trucs, dans des soirées avec des gens plus âgés, par exemple. Encore plus dans le centre-ville, plus aisés, etc. Et du coup, ils m'appelaient, et je venais à la soirée. Au début, ils t'appellent, quoi, et puis toi, tu viens. Tu les attends dans le hall, tu les fais toujours. C'est bien de les faire attendre un petit peu. Parce que tu le livres, déjà. Genre, c'est toi qui prends le risque de traverser la ville. Le truc, c'est que ça te donne un pouvoir. Hein. C'est malsain, c'est très très malsain, dans le fond. Tu peux mettre autant de temps que tu veux pour les livrer. Et ils ont beau t'envoyer des messages en mode « Ah, faut que je parte à ma soirée, là je vais être en retard, tu me mets en retard et tout, mec, etc. » Quand t'arrives, ils sont trop gentils. Ils sont genre « Ah, désolé pour les textos, c'est mes potes qui me mettaient la pression et tout. » Mec, genre, c'est juste toi qui voulais ta coque plus vite, hein. Je suis pas con, et je sais que, de toute façon, je peux mettre une heure. C'est pas cool, hein, de dire ça, mais je peux mettre une heure, tu seras toujours aussi content de me voir. En même temps, t'es aussi leur serveur. Donc, si t'es là à courir pour être là le plus rapidement pour eux, c'est pas égal. Donc, je pense que le fait de jouer un peu là-dessus, tu réajustes un peu la balance. Donc, c'est malsain, mais c'est fair play, quoi. Et ceux qui ont l'air cool, tu leur parles un peu plus. Et au fur et à mesure que tu viens, tu leur dis, tu sais, si tu veux, si c'est plus pratique pour toi, tu peux m'appeler, moi je te réserve une soirée, tu vois, et je viens, je passe la soirée avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui te rappellent plusieurs fois pendant la soirée. Et donc au bout de la troisième fois, tu lui dis, écoute, la prochaine fois, tu me dis, je fais une soirée ce soir-là, moi je viens, je passe la soirée avec vous, tu vois, et comme ça t'es pas obligé de faire l'aller-retour à chaque fois, etc., etc. Et du coup, petit à petit, je rentrais un peu dans ce truc-là, quoi. Dans ce truc de gens différents, en tout cas. Je vais pas faire de jugement sur ces gens, mais c'était un milieu différent. Et moi, qui à l'époque m'intéressait beaucoup, quoi. Et puis, danser entre eux. Et moi, j'ai toujours adoré danser. Sauf que je le faisais jamais avec mes potes. Par contre, dans ma famille, on danse beaucoup. Les fêtes qu'on faisait en famille, on danse énormément. Et je trouve ça dommage de pas danser quand je faisais la fête avec mes potes. Et du coup, là-bas, les soirées, je pouvais danser et tout, enfin, c'était super. Et puis les filles aussi, enfin, les meufs.
Du coup, tu gagnais combien quand tu vendais ?
Le gramme, tu touches entre 20 et 30 balles, tu le revends entre 60 et 80 en fonction de la gueule du client. Et donc voilà, tu te fais entre 30 et 50 euros par gramme, quoi. Vu que je commençais à vendre quand même beaucoup de coke, plus tu vends, plus tu montes, entre guillemets.
T'avais quel âge à l'époque ?
22 ans.
Tu fais des études ?
Non, j'ai pas fait plus que le bac. Plus tu vends, plus t'as besoin d'une grosse quantité. Et ton premier, entre guillemets, grossiste, au bout d'un moment, il peut pas te fournir cette quantité. Du coup, il va te dire, écoute, va directement voir mon mec au-dessus. En gros, ça appartient de, je sais pas, 50 grammes.
Et toi, du coup, t'avais 50 grammes chez toi ?
Non. Faut jamais cacher chez soi. Moi, mon truc, c'était dans des parcs, en fait. Tu creuses, tu fais un trou. Donc tu l'enterres et tu mets un truc pour te repérer. Tu calcules à peu près ce qu'il te faut pour chaque semaine. Tu mets le gros dans le parc et chaque semaine, tu viens déterrer ce dont tu as besoin. Pour moi, c'est le meilleur parce que c'est intraçable. Il n'y a que toi qui sais où c'est. Et personne ne va aller creuser au hasard dans un parc. Et je pense que même les chiens, si tu l'enterres suffisamment profondément, même les chiens, ils ne pourraient pas trouver. Faut juste pas te faire suivre. T'es le dernier maillon de la chaîne, tu vois. À tes clients, tu leur dis, ouais, elle est pas coupée et tout. En fait, non, évidemment, évidemment que tu la coupes. Mais après, je la coupais pas énormément. Il y a différents produits. Il y a la poudre de caféine, déjà. Tu peux acheter ça dans les magasins de muscu. Et des trucs comme ça. En gros, tu tamises d'abord le truc. Avec les deux ensemble. Tu les fais passer à travers des passoires ou des choses comme ça pour que vraiment ce soit brassé ensemble. Et ensuite, tu le remets dans plusieurs sacs plastiques que tu fermes vraiment très fort, limite le plus serré possible en fait. Et tu laisses comme ça pendant un petit moment et puis ensuite tu réouvres et c'est. Enfin, je dirais, les gens ne font pas la différence. Il y a plein de petites techniques aussi. Il y a des plastiques différents qui donnent l'impression que tu en as plus ou que tu en as moins. Quand c'est la bonne coke de la bonne qualité, quand elle est un peu humide, ça gonfle un peu, par exemple, tu vois. Donc, si c'est vraiment de la coke de merde et que c'est de la poudre, tu vois, et quand t'en as beaucoup, tu souffles, enfin, pas tu souffles, mais tu fais comme ça dessus, tu vois. Et là, ça va l'humidifier un peu. Ça pourrit beaucoup de relations. Parce que s'il y a déjà cette relation de consommation et de dealer, d'avoir une vraie amitié, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Ou même la relation avec les filles, c'est juste dégueulasse, quoi. Des meufs qui ont l'air super sympas, qui viennent te parler, etc. Et ensuite, tu sais plus si c'est pour... Du coup, très rapidement, j'ai eu une politique de quand une jolie meuf vient m'aborder, je lui fais une trace, après je lui demande de partir.
Comment t'as décidé d'arrêter ?
La prison. Et puis les femmes aussi, beaucoup.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que... De pouvoir rencontrer quelqu'un sans qu'il y ait ce truc-là, en fait. Parce que soit tu rencontres une fille en soirée et il y a ce truc de t'es le dealer ou t'es le mec qui a de la drogue, donc ça fausse les choses. Soit tu la rencontres en dehors de la soirée et le moment où elle va, tu vas devoir lui dire, où elle va réaliser que t'es dans ce genre de milieu, tu la perds. Par exemple, quand tu pars travailler, entre guillemets, la meuf elle est morte d'inquiétude et ça pourrit la relation de l'intérieur en fait. Et en plus, t'as pas de place pour quelqu'un d'autre de toute manière. T'as pas de place pour rien d'autre, en fait. Tu peux pas parler avec ta famille parce que c'est ta vie et tu peux pas mêler ta famille à ça. Donc tu peux rien leur dire parce qu'en fait, du coup, tu t'enrichis tout seul dans ton coin et tu peux même pas faire profiter les gens que t'aimes de ton argent, quoi. Donc tu vas nulle part, en fait.
Et tu crois que ça a joué, toi, dans le fait que t'aies fait ce choix-là, d'un moment de vendre, de savoir que ça existait dans ta famille déjà?
Ouais. Oui, parce que c'est des gars que j'admirais. Je me rappelle quand j'étais petit et qu'ils venaient visiter mon père, c'est des mecs trop stylés, quoi. Il y a cette phrase, nous, il y a Lief, c'est n'empêche que je suis un lion. Plus généralement, ça veut dire je préfère être un lion mort qu'un mouton vivant. Et en gros, pour moi, c'est des gars qui acceptent pas le fait que on leur impose des choses, c'est des forces en fait.
Ce qui est marrant, c'est que malgré tout, toi, ce que t'as choisi, c'est d'être un mouton vivant.
Ouais, parce qu'il faut une. Je pense que soit t'as un feu en toi qui est suffisamment fort pour faire ça de la bonne manière, soit tu deviens pourri parce qu'en fait, tu fais plus de mal aux autres que de défendre, entre guillemets, ta liberté. Et tu finis par faire de la merde, par te pourrir toi-même, par pourrir les gens autour de toi.
Comment tu fais avec cette idée que, quand même, tu vends aux gens un truc qui est dangereux?
Ouais, ça c'est un truc avec lequel je suis encore en train de gérer. Enfin, le truc, c'est que, en fait, comme j'étais consommateur aussi, finalement, tu vends la même chose que ce que tu consommes. Et puis, t'es dedans. T'as pas vraiment le temps de prendre du recul sur ta situation. Parce que tout est au jour le jour. T'as la quantité que t'as maintenant, les dates qui te restent avant de retourner en chercher. T'y penses en permanence. Donc, oui, il y a des moments où tu te dis, je leur fais du mal, etc. En même temps, c'est eux qui t'appellent, c'est eux qui viennent. Après, quand t'arrêtes, voilà, c'est un truc que je culpabilise encore maintenant. Hein. C'est vrai qu'en plus, quand tu commences au début, toi, t'es un mec de test, tu viens livrer des mecs du centre-ville. Écoute, si ça leur fait un trou dans la paroi nasale, ils ont des thunes pour la remplacer, quoi. C'est pas la mort.
France Culture, les pieds sur terre.
Ça, c'est le produit.
Ah ouais, mais on dirait un gros caillou, en fait.
Ouais, c'est un gros bout de plate. Là, tu peux toucher, tu vois. Tu verras que c'est gras.
Tu vois. Hop. Et là, tu fais quoi avec tes deux cartes?
Ben là, tu t'essaies de l'aérer, de la rendre la plus sèche possible, quoi.
Nico fait partie d'une autre catégorie de dealers, du genre qui ne vend qu'à son groupe d'amis.
Tes muqueuses et être ingéré dans le sang, quoi.
La lutte des classes existe aussi dans le trafic de drogue. Là où on pourrait comparer Mathis à un self-made man, Nico est plutôt un héritier qui s'est servi de son capital social.
C'est une grosse poutrasse que tu viens de faire là, non?
Moi, je pense qu'il vaut mieux prendre des gros traits et peu.
N'en fais pas trop quand même.
Un revendeur consommateur, c'est quelqu'un qui va acheter en gros pour consommer avec ses potes, par exemple. Moi, si tu veux, je fais le sale boulot pour tout le monde, quoi. Donc c'est moi qui vais prendre les risques, c'est moi qui stocke, c'est moi qui avance l'argent, c'est moi qui fais tout ça. Donc c'est évidemment, moi, je trouve que ça mérite quand même un petit salaire. Mais c'est pas quelque chose qui va te rendre riche. Alors que la coke, ça peut te rendre riche, enfin riche, ça peut te faire gagner beaucoup d'argent.
Et toi, tu fais combien de bénéfices?
En gros, t'achètes 50 balles, tu revends 80 balles. Si les mecs en prennent plus, tu vends 70 balles. J'ai pas de clients que je connais pas. C'est que des amis. C'est que des gens que je connais depuis des années et qui consomment comme moi depuis des années. C'est que des gens qui sont intégrés, mes clients, c'est que des bourgeois, c'est que des gens qui ont des enfants, des boulots, des bons boulots, tu vois. C'est que des gens qui sont pas désociabilisés et qui posent aucun problème à la société. Et j'ai interdit toujours aux gens de ramener des gens avec eux chez moi. Je veux pas du tout être perçu comme l'ordi, tu vois. C'est une organisation qui est comme un club, quoi. Et à un moment, je voulais faire des cartes de club, tu vois. Donc du coup, monsieur, pourquoi vous avez toute cette drogue chez vous? Parce que j'ai un club de membres, tu vois.
J'ai rencontré Nico dans une fête à côté de Paris. Ce soir-là, il avait assez de produits sur lui pour droguer 30 personnes pendant 2 semaines. Nous avons été amants, et ce que je préférais quand j'allais chez lui, c'est que je pouvais m'asseoir dans un coin et observer ses clients défiler. C'est là que j'ai compris qu'un dealer, c'est un peu comme un psy.
La coke, c'est pas un truc que tu vois la première fois. Ça te fait rien, je trouve, les premières fois. C'est pas très évident, quoi, comme effet. Je sais pas, autant mon premier joint, je me souviens qu'il m'avait placardé au sol et que j'avais fait tourner ma neige en croyant que la terre était plate. Et la coke, non, parce que la coke, c'est une drogue du bonheur, c'est une drogue de la puissance, mais c'est pas quelque chose de violent, quoi. Il n'y a plus d'obstacle, en fait, à ta volonté. Voilà, tu peux aller attaquer un quart d'allemand à main nue. Tu seras sûr de la victoire, quoi. Tu es vraiment le maître de toute chose. C'est un dopant, ça me fait réfléchir plus vite, ça me fait réfléchir mieux, ça me fait prendre des décisions que je n'oserais pas prendre.
Genre quoi?
Genre arrêter de travailler, par exemple. Je travaille beaucoup moins depuis que je suis cocaïnomane. Ne serait-ce que parce que aussi, de toute façon, ça détruit les choses qui t'entourent, donc c'est plus facile après de les abandonner, mais une fois qu'elles sont détruites. Mais avec le recul, je ne regrette pas du tout, c'est ça qui est étrange. Et moi, je sais que ça m'a permis d'arrêter une vie que je n'aimais pas, en fait. J'étais pas épanoui, quoi. Et peut-être c'est aussi pour ça que je suis tombé dans la drogue, parce que j'étais pas heureux dans ma vie. Il y aura des moments où je peux consommer tous les jours, mais jamais plus qu'un gramme par jour. Moi, je suis pas un ouf non plus. Et puis, la plupart du temps, ça va être, en fait, je vais consommer le week-end, quoi. En un week-end, tu prends 3 grammes, quoi. Au début, c'était festif. Voilà. Que festif. Et après, c'est devenu beaucoup plus que seulement festif. Et après, ça devient une envie malsaine, quoi. Comme la drogue, elle est très puissante et elle remplit tes cellules du bonheur, comme si t'avais eu, je sais pas, le jour où t'as eu ton bac, peut-être que t'es aussi heureux que après avoir pris un gramme de coke, tu vois. Bon, bah, c'est sûr que la vie de tous les jours, après, c'est difficile pour remplir les cellules. T'as pas ton bac tous les jours, tu vois, ou tu tombes pas amoureux tous les jours. Du coup, c'est pour ça que la descente, elle est là, et c'est pour ça que c'est vicieux, ce truc, parce qu'en fait, après, c'est vrai que la vie paraît un peu triste, quoi. Bon, ça va, moi, je suis un optimiste, donc je me remets assez vite de ça. Et puis, je suis un vrai drogué. Ça fait des années, des années, des années que je me drogue, mais pas que à la coke. Et donc, je connais ces effets-là. Maintenant, ma vie, c'est une vie de drogué, quoi. J'ai plus de temps drogué que de temps pas drogué, quoi. Si j'ai commencé, tu vois, à 17 ans, vu que j'en ai 45 maintenant. Moi, j'ai pas un rapport tabou à la drogue. Je trouve que le gros problème de la drogue, c'est qu'elle soit néfaste pour nous, mais qu'il n'y a aucune raison qu'elle le soit. C'est que la prohibition qui crée ça, à mon avis. La société, elle est génératrice de stress, elle est génératrice d'angoisse, elle est génératrice de dilemmes, elle est génératrice d'abnégation, de beaucoup de choses qu'il faut mettre en œuvre, et que la drogue, c'est un allié pour ça. Et que c'est pas étonnant que tout le monde se drogue depuis tout le temps. Si c'était bien encadré par la société, bien expliqué aussi aux gens, ça pourrait être un complément tout à fait normal à la vie qui est dure, quoi, tout simplement. Donc moi, j'ai pas envie de pas me droguer. J'ai envie de me droguer toute ma vie, mais bien. Et le problème, c'est que là, c'est la prohibition, en fait, ça crée d'abord tout un réseau de merde qui fait que du coup tu tombes dans des trucs de merde, ça crée des produits qui sont de la merde, qui du coup sont plus addictifs qu'ils ne devraient l'être, qui ont plus d'effets secondaires qu'ils ne le devraient, et puis ça t'oblige aussi, par exemple, moi, si jamais c'était en vente libre, je serais pas dealer par exemple, donc du coup j'en aurais pas chez moi. Sans moi, il y aurait ça quand même, si c'était pas moi qui le revendais, ce serait quelqu'un d'autre. Moi, je suis un rouage, mais je ne suis pas le responsable de ça. Le vrai responsable, c'est qui ? C'est le consommateur. C'est pas le revendeur. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. C'est la loi du marché. C'est aussi bête que ça. Donc, c'est un faux problème d'attaquer les revendeurs. Et voilà. Donc, tout ce problème, c'est un problème de société. Ce n'est pas du tout un problème qui me concerne, moi. Donc, moi, je n'ai fait que les choses pour arranger ma petite histoire personnelle. Et je collabore, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que le dealer, il est responsable du trafic. Donc, le responsable, c'est le mec qui va aux putes, c'est pas la pute. Tu comprends ou pas ? La pute, c'est elle la victime.
Qui est responsable du trafic de cocaïne ? À mes yeux, c'est sans doute la question la plus importante quand on sait que la production et la distribution de cocaïne est le système commercial le plus cynique et meurtrier de la planète. Pour les hommes comme pour l'environnement. Nico affirme que cette responsabilité incombe aux consommateurs. Je pense que ça vaut le coup d'aller leur demander ce qu'ils en pensent. You went away and left me one dark day when we were much too close, dreaming of our private peace. You went away and I was breathing again. The air was pure and now it felt so good somehow to be alone. But if I'd known,
aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, une odeur de poudre, premier épisode d'une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Delphine Lemaire. Merci à Mathis et à Nico. Sandrine Chapon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Marguerite Delassalle, c'était notre stagiaire qui est passé. Et parti, bon vent à vous, à toi Marguerite.